France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, François Mitterrand, le funambule. De lui, on a tout dit. Impénétrable, prince de l'ambiguïté, animal à sang-froid, talent immense. Mais un parcours en forme d'affaires sensibles. Né dans une famille de la bourgeoisie catholique charentaise, étudiant proche des milieux d'extrême droite, après la débâcle de 1940, il épouse la révolution nationale du maréchal Pétain. Prisonnier de guerre en Allemagne, il s'évade en 1941, avant de démarrer une carrière de fonctionnaire dans l'administration de Vichy. Mais en 1943, tout change. Pétain et sa clique ont montré leur vrai visage. Fascistes à la française, antisémites, collabos. Face à cette engeance criminelle, François Mitterrand s'engage dans la résistance. Proche du général Giraud, il devient le capitaine Morland. Mais en 1994, à la fin de son règne à la tête de la France, son passé refait surface à la faveur du livre de Pierre Péan, Une jeunesse française. La Francisque, la réception chez Pétain, que n'a-t-on pas entendu? Jugement, condamnation, mais bien peu sur son action dans la résistance, comme si ce côté lumineux venait gâcher le récit d'une vie qu'on voudrait forcément sulfureuse. Alors rétablissons ici certaines vérités qui peut-être dérangent, raison de plus pour les rappeler. Notre invitée aujourd'hui, Bénédicte Vergès-Chaignon, historienne, autrice de livres intitulés « Les Vichistos résistants de 1940 à nos jours », livre paru chez Perrin en 2008. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Ballandras, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Décembre 1943. Dans un Douglas de la Royal Air Force, entre les courants d'air glacés qui sifflent et le vacarme des moteurs, l'un des passagers observe par le hublot les eaux noires de l'océan Atlantique, François Mitterrand. Visage de granit et regard perçant, corps enveloppé d'un long manteau sombre, ce jeune résistant, nom de code Monnier, semble préoccupé. Dans quelques heures, il sera à Alger face au chef de la France libre, de Gaulle. C'est le général en personne qui l'a convoqué. De Gaulle. Dans l'Hexagone, son nom inspire déjà la légende. Ennemi féroce du régime de Vichy, l'homme du 18 juin vient tout juste d'écarter le préféré des Américains, le général Giraud, et d'unifier la résistance sous ses couleurs. Désormais, seul représentant de la France parmi les alliés, il se comporte comme un chef d'État en exil. Il faut dire que depuis la victoire soviétique à Stalingrad et le débarquement américain en Afrique du Nord, la victoire semble plus que jamais possible pour les Alliés. Mais quel rôle peut jouer la France? Humiliée par la débâcle de 1940, martyrisée par l'occupation, le pays est tiraillé entre les forces alliées à travers la résistance et celle de l'Axe avec Vichy. Le visage collé au hublot, Mitterrand, ou plutôt Monnier, c'est qu'il n'a pas la confiance du général de Gaulle. Non seulement le jeune homme est entré dans la résistance dans le sillon de l'ennemi intime, le général Giraud, sous le nom de code de Morland, mais surtout, plus compromettant, il a été avant cela un fonctionnaire du gouvernement de Pétain. Ainsi, à peine 7 mois plus tôt, il recevait de main du maréchal la Francisque, plus haute distinction figiste. Alors, les yeux dans le vague, face à l'océan, harnaché à son siège, peut-être repense-t-il à cette phrase écrite dans une lettre à sa sœur en 1938, 5 ans plus tôt.
Tout se ramène à ceci, gagner ou perdre. On ne reste jamais stationnaire, car ne pas bouger, c'est commencer à perdre. Dans les épreuves décisives, on ne franchit correctement l'obstacle que de face.
Même si l'obstacle arrive de face, Mitterrand sait que son avenir est en jeu. À tout juste 27 ans, l'homme aux trois noms a déjà eu au moins autant de vie. Étudiant proche de l'extrême droite dans les années 30, prisonnier de guerre en Allemagne en 40, fonctionnaire à Vichy en 42, puis résistant dès 1943, donc. Alors, quel accueil lui réserve le général? Et puis comment ce Morland Mitterrand a-t-il basculé de Pétain à la clandestinité? Pour mieux comprendre cette trajectoire, il faut revenir 3 ans plus tôt, en juin 40. Monnier s'appelle encore Mitterrand. Jeune sergent-chef capturé par les nazis, c'est depuis un camp de prisonniers qu'il va vivre l'une des plus grandes humiliations militaires de l'histoire de France, la débâcle. Stalag 9A, Allemagne, juin 40. Vêtu d'un uniforme gris troué arborant le matricule 27716, le prisonnier Mitterrand fait les 100 pas dans un dortoir. Un journal en main, un bol de soupe tiède dans l'autre, il affiche une mine fermée. La France vient de capituler. En 2 mois à peine, la Wehrmacht a écrasé sa vieille rivale. Hitler marche sur Paris et les nazis célèbrent leur triomphe. Autour du jeune prisonnier, les camarades du régiment baissent la tête. L'air hagard, certains se réunissent autour d'un poste de radio. La petite enceinte renvoie un air de désastre.
Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Voilà ce que c'est que la guerre. La guerre ne consiste plus en place prise, en victoire ou en défaite, mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, qui vont parfois au théâtre, s'enfuient affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis. Parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls.
Soldat vaincu d'une armée déshonorée, le prisonnier Mitterrand, 24 ans au compteur, en rage. Imprégné des valeurs conservatrices de son milieu bourgeois des Charentes, anti-allemand jusqu'au bout des ongles, ce natif de Jarnac ressent depuis le début de la guerre, un an plus tôt, une immense rancœur contre les hommes de la Troisième République. Avec cette défaite, il est persuadé que la France paye une dette contractée un siècle et demi plus tôt. 150 ans de politique impériale épuisante, de guerres inutiles et d'affaissement culturel. Bref, 150 années d'erreur. Alors, quand 2 semaines plus tard, le 10 juillet, l'Assemblée vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, le jeune Mitterrand pense que l'ordre ancien est balayé et qu'avec Pétain, tout va recommencer. La France est coupée en deux. D'un côté, la zone nord aux mains de l'armée allemande. De l'autre, la zone sud, dite libre, contrôlée depuis Vichy par le gouvernement de capitulation.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
Dans les semaines qui suivent, un semblant de quotidien se met en place. Perdu au milieu de 30 000 prisonniers, le détenu Mitterrand emmène une vie solitaire, presque monacale. Il dévore les pensées de Pascal, écrit à Béatrice, sa fiancée, et assiste aux messes du dimanche. Cultivé, brillant, un peu arrogant aussi, ça va parfois avec le talent, comme un sentiment de supériorité mal géré, le jeune homme devient le rédacteur en chef du journal du camp, l'éphémère, et commence même à donner quelques conférences improvisées. Regard de sphinx sur tribune brinque-ballante, il fait l'admiration de ses compagnons par son savoir encyclopédique et son agilité intellectuelle. Mais derrière cette présence aristocratique, le félin Mitterrand change profondément. Entre l'humiliation de la débâcle et la découverte de la vie en communauté, il s'affranchit peu à peu de ses convictions de jeunesse.
Ma grande révélation a été la captivité. Moi, qui suis si profondément individualiste, j'ai trouvé plaisir à cette vie communautaire. Mais le choc principal, c'est que je me suis soudain rendu compte que la hiérarchie naturelle d'un camp de prisonniers ne correspondait absolument pas à celle que j'avais connue jusqu'ici. Le notaire et l'instituteur se jetaient à plat ventre pour ramasser les mégots que leur lançaient en riant les Allemands. La hiérarchie de la décoration, du diplôme, de l'argent ne valait plus rien. C'est là que j'ai commencé à remettre en cause de façon fondamentale notre société.
Cependant, même s'il se rebelle contre l'ordre établi, Mitterrand l'individualiste hésite face au murmure de la résistance. Au Stalag, tout le monde a entendu parler de l'appel de ce général qui a fui Paris pour Londres, ce Charles de Gaulle. À l'image de la plupart de ses compagnons, Mitterrand n'est pas forcément hostile à son action. Mais il pense avant tout qu'il fait laisser sa chance à Pétain. Alors, Londres et Vichy en même temps? Comme il le racontera des décennies plus tard, de nombreux soldats sont en quelque sorte des péténogaullistes, sans que cela ne semble contradictoire. Pétain est vu comme le bouclier et de Gaulle, le glaive.
À ce moment-là, on a beaucoup vécu sur l'idée, idiote, mais très répandue, que Pétain et De Gaulle étaient d'accord. C'était dans les camps. Vous voyez, dans les camps, il y avait des cercles Pétain. Nous, on pensait, on disait, voyons, ce général et ce maréchal, qui étaient très amis, l'un était le parrain de Pétain du fils du général De Gaulle. Mais j'ai vécu sur cette hypothèse bête pendant un certain temps. Donc c'est pour vous dire que les choses sont plus compliquées qu'on ne croit.
Oui, mais alors, à quel bord politique appartient l'insaisissable Mitterrand ? Parmi ses compagnons d'infortune, les avis divergent. Certains le pensent à droite, voire à l'extrême droite, d'autres déjà à gauche. Ce doute résume à lui seul la personnalité du futur président. Même dans la promiscuité, nul ne peut se vanter de le connaître. « Garde tes secrets, tu en seras le maître, divulgue-les, tu en seras l'esclave. » De toute façon, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, il le sait mieux que personne. En réalité, le soir, sur sa paillasse, il ne rêve que d'une chose, retrouver sa promise, Béatrice, et avec elle, la liberté. Le 10 décembre 41, il y parvient. Muni de faux tampons nazis, de caractères d'imprimerie et de pâte à empreinte, il gagne Nancy avant de rejoindre la zone libre. Après un an et demi de captivité en Allemagne, François Mitterrand retrouve pour de bon son pays. Enfin. Rentré en France, je deviens résistant sans problème déchirant, écrira-t-il des années plus tard dans Ma part de vérité. Mais la réalité est plus complexe, encore une fois. Avant d'entrer dans la clandestinité, l'évadé de guerre s'apprête à faire un détour qu'on ne cessera de lui reprocher. Un détour par une ville dont le nom inspire encore aujourd'hui la défiance, et bien plus encore, Vichy.
Vous ne pouvez pas savoir comme mon pauvre cœur est lourd. Pourtant, je le sens ce soir, l'amour n'interdit pas l'amour. Le jeu recommence, le printemps s'avance, tout chante, c'est encore mon tour. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu. Tendres espoirs, bouquet d'un soir, dont le parfum n'est plus. Le cœur cherche sans cesse l'écho de sa jeunesse. Et chaque amour est un retour au paradis perdu. Vous venez je ne sais d'où, j'ignore jusqu'à votre nom. Je vois que vos yeux sont doux, mais votre voix m'entêle ou non. Tant pis, je vous aime, l'amour c'est moi-même qui meurt et renaît chaque jour. Rêve d'amour, bonheur trop court, au paradis perdu. Tendres espoirs, bouquet d'un soir, dont le parfum n'est plus.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, François Mitterrand, le funambule.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Janvier 1942, Vichy. Sur le quai de la gare, un homme sort du train en provenance de Paris, François Mitterrand. Chapeau mou, redingote sombre et valise remplie de faux papiers. Il débarque à Maigri, après 18 mois passés, il est vrai, dans un camp de prisonniers d'Allemagne. Révolté contre la Troisième République, il arrive dans la petite station thermale avec un objectif simple, servir son pays et avec lui la révolution nationale du maréchal. Hélas, il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Béatrice, sa fiancée, l'a quitté pour un autre. C'est donc le cœur brisé qu'il découvre l'air frais des bords de l'Allier.
Vichy est une ville affreuse. Rien qui vous arrête le regard. Des hôtels maflus ou sautement linéaires, des villas prétentieuses plantées là, selon le goût douteux de grosses femmes. On devrait raser les villes d'eau. Nos imbéciles de petits-enfants les trouveront belles parce que anciennes.
Au-delà des considérations esthétiques autour de cette drôle de capitale, François Mitterrand débarque avec les contacts de deux gradés proches de sa famille. Grâce à leur piston, ils trouvent un emploi à la documentation de la Légion des combattants et des volontaires de la Révolution nationale. Derrière ce nom à rallonge se trouve une institution de propagande vichiste chargée de mobiliser la masse des anciens combattants autour de Pétain. Au départ, les journées de Mitterrand sont plutôt tranquilles. Elles consistent à rédiger des fiches de prisonniers. Une routine s'installe ainsi dans ce Vichy qu'il découvre, ce conglomérat incertain où se mélangent socialistes rénovateurs, pacifistes ou réactionnaires maurrassiens. De la gauche à la droite la plus dure, l'échiquier politique est quasi complet à Vichy. Cependant, malgré toutes les nuances qu'on peut apporter, une chose est certaine. À Vichy, l'antisémitisme est partout. Ainsi, plusieurs lois scélérates sur le statut des Juifs ont déjà été promulguées. Des films et même des expos sur ce qu'on appelle le problème juif sont montrés au public. Une féroce propagande résonne.
13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
Aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment comment le jeune Mitterrand réagit à la découverte de ces lois d'exception. Lui dira toute sa vie qu'il n'a appris l'affaire que bien plus tard, après la libération. La majorité des historiens en doute. En zone libre, en 1942, personne n'a idée du désastre qui se joue à l'autre bout du continent, certes. Mais tout le monde sait que les Juifs ont un statut de sous-citoyen. En revanche, ce qui semble certain, c'est que Mitterrand n'a jamais été antisémite. Cela ne l'empêche pas d'en fréquenter certains, comme Gabriel Jeantet. Militant d'extrême droite avant-guerre au sein d'un groupe terroriste baptisé la Cagoule, Jeantet propose à l'homme de Jarnac d'écrire quelques articles pour la revue de l'État nouveau qu'il dirige. Mitterrand se fait ainsi un nom dans les cercles du pouvoir. Le soir venu, il quitte son appartement de la rue Nationale et marche jusqu'au Sintra, un bar du centre-ville où les journalistes et officiels du régime ont leurs habitudes. Mais à force de les fréquenter, il se montre de plus en plus critique vis-à-vis des hommes qui entourent le maréchal. Pour lui, le projet de révolution nationale a été court-circuité par une vieille garde frileuse. Pétain est un homme seul, trahi par son entourage. Et les proches du vieil officier ne sont pas les seuls à se méfier. En effet, à Paris, le pouvoir nazi s'inquiète de l'autonomie grandissante du régime de Vichy. Le 18 avril 1942, le commandant Otto Abetz pousse Pétain à rappeler Pierre Laval à la présidence du Conseil. Et quand celui-ci revient, après un an et demi d'absence forcée, il s'accapare tous les pouvoirs. Sous son impulsion, un ramassis de traîtres et d'antisémites prennent du galon, à l'image du sinistre chef de la milice Joseph Dardan.
Sorti du plus profond de son peuple, cher de sa chair, vous aurez l'honneur de servir chaque jour, obscurément, dans la tâche quotidienne du redressement français, de donner peut-être votre sang, votre vie, avec pour seule récompense la joie d'avoir servi. À genoux ! Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, à consacrer toutes mes forces, à faire triompher la révolution nationale et son idéal, suivant les ordres de mes chefs et la discipline librement acceptée du SOL. SOL, debout !
Refroidi par l'avènement des affreux, lassé de son travail qu'il juge inutile, François Mitterrand décide le 22 avril de démissionner de son poste à la Légion. Toujours sensible au sort du 1,5 million de soldats détenus en Allemagne, offusqué contre cet odieux marché qu'on appelle la relève, qui consiste à échanger des prisonniers contre des jeunes Français, il prend alors une décision importante, montée de filières d'évasion clandestine. Ainsi, avec quelques collègues, il élabore des faux papiers qu'il cache dans des portraits de Pétain avant de les envoyer dans les stalags. Et ce n'est pas tout. Peu à peu, il affiche grand jour son aversion pour la collaboration. En avril 42, il provoque son premier coup d'éclat quand il interrompt une réunion publique du savant Georges Claude, un ardent collaborationniste. Cependant, même s'il s'éloigne de la frange la plus radicale, Mitterrand reste à Vichy. En parallèle de son activité clandestine, il retrouve en juin un emploi dans l'administration au commissariat au reclassement des prisonniers, où il devient chargé de la propagande pour la zone libre. Pourtant, l'ambigu fonctionnaire fatigue. Il se sent de plus en plus à l'étroit dans la station thermale.
Vichy aujourd'hui me déroute. Cette cuvette où l'air incite à la torpeur, chargée d'humidité mauvaise. Je ne puis en faire ma demeure. Je ne puis me satisfaire d'une existence où la vie est sommeil et copie de la mort.
Ce désir de mouvement, Mitterrand l'assouvit en s'enfonçant un peu plus dans la clandestinité. Ainsi, il crée avec ses camarades une couverture officielle pour leur organisation, le CEA, ou Centre d'entraide de l'Allié. Grâce à cette façade, leur objectif s'élargit. Désormais, en plus des faux papiers et des évasions, ils souhaitent réinsérer socialement les prisonniers et les défendre contre la Gestapo. En cette fin d'année 42, tout bouge très vite sur les rives de l'Allier, et il est difficile de savoir sur quel tableau joue celui qui deviendra président de la République, 39 ans plus tard. Toujours en poste, il voit les défections de plusieurs personnes proches de ses idées, comme le général Giraud, et rencontre les résistants qui œuvrent au noyautage des administrations. Il est aussi à Vichy, quand en novembre, plusieurs nouvelles du front secouent la ville et le pays tout entier. Ainsi, le 6 novembre, les forces alliées débarquent en Afrique du Nord. Le même général Giraud est placé à la tête du commandement civil et militaire par les Américains. 5 jours plus tard, le 11 donc, la Wehrmacht répond et envahit la zone libre. La marche de l'histoire s'accélère, la guerre arrive à un tournant décisif et Pétain tente de contenir l'hémorragie.
Le maréchal Pétain vous parle.
Français, des officiers généraux au service d'une puissance étrangère ont refusé d'obéir à mes ordres. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée d'Afrique, n'obéissez pas à ces chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne.
À Vichy, l'heure de la purge a sonné. Les réfractaires à la collaboration sont évincés. Et pour Mitterrand, c'est la goutte de trop. Il démissionne. Et cette fois, plus question de faire dans la demi-mesure. La résistance, la vraie, lui tend les bras. Février 1943, Vichy. Derrière les murs de son appartement de la rue Nationale, François Mitterrand entre dans la clandestinité et adopte un surnom de guerre, Morlan, et participe à la création du Rassemblement National des Prisonniers de Guerre. Très vite, il entre en contact avec les membres d'un autre mouvement clandestin qui vient de naître, l'Organisation de Résistance de l'Armée, ou ORA. Fondée par le général Giraud, l'ORA est déjà puissante. Elle permet aux nouveaux résistants de lever des fonds pour son réseau. Ainsi, le capitaine Morlan commence à se faire connaître dans le petit milieu réfractaire de Vichy. Rester dans la station thermale est pour lui un choix stratégique. À l'abri derrière le paravent de la respectabilité, proche du pouvoir et de ses réseaux, il peut facilement jouer double jeu. Ainsi, grâce à son laissez-passer officiel, il se déplace dans tout le pays. Lyon, Clermont, Paris. Et peu à peu, son réseau s'étoffe. Il prend du galon au sein de l'ORA jusqu'à en intégrer le service action. Ce basculement dans la clandestinité est une révélation. L'ennui et la torpeur de la vie de fonctionnaire ne sont plus que de lointains souvenirs. Devenu expert en dissimulation, plus vraiment certain de sa véritable identité, Morlan, Mitterrand, parle même parfois de lui à la troisième personne.
Jamais, en tout cas, cet homme de l'ombre n'a éprouvé un tel sentiment d'exaltation. Il se réalise pleinement dans cette action complexe et risquée. Il n'est plus menacé par l'ennui, sa peur absolue. Il se moque bien de mourir, mais il sait que, s'il en réchappe, il peut lui échoir un véritable destin.
Ce véritable destin, il l'accomplit donc à la faveur d'un grand écart entre la résistance et Vichy. Le soir, il est Morlan, recherché par la Gestapo, mais au sein du pouvoir pétainiste, il est toujours le respectable Mitterrand. Au printemps, son nom est même proposé pour recevoir la distinction la plus haute au sein du régime de Pétain, la Francisque. Ce qui arrive en mai 43, il est décoré de la main du maréchal, totalement dupe. Mitterrand d'ailleurs n'est pas le premier résistant à être célébré par Vichy. Avant lui, Antoine Pinet, Michel Debré ou encore Alexandre Parodi l'ont été. En tout cas, sa couverture est renforcée. Il peut profiter de ses avantages pour faire grandir son réseau de l'ombre. Ainsi, Morlan agglomère autour de lui des groupes de prisonniers déçus de Vichy. Et il rencontre même certains proches du général de Gaulle, comme Henri Freinet, fondateur du célèbre réseau Combat, séduit par ce jeune intellectuel fringant. Pourtant, ce rapprochement entre un giraudiste et un gaulliste reste une exception. En ce printemps 43, Henri Giraud et Charles de Gaulle, les deux principaux chefs de la résistance, se détestent. Leurs réseaux respectifs s'évitent et la résistance est coupée en deux. Entre Alger, Washington et Londres, les responsables alliés sont furieux. Ils ordonnent aux deux hommes de s'entendre, à travers une stratégie simple, donner à chacun la coprésidence du Comité français de libération nationale, le CFLN, qu'on appelle communément la France libre.
Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat vous en a dur. Ne vous souciez pas des noms ni des formules. Une seule chose compte, le salut de la patrie.
Malgré quelques efforts au début de l'été, l'alliance est illusoire. Même s'ils partagent un objectif commun, les deux généraux sont en désaccord profond sur les moyens. D'un côté, Giraud est un légitimiste qui attend le soutien militaire des alliés pour passer à l'action. De l'autre, de Gaulle milite pour une riposte paramilitaire immédiate contre l'occupant. Sur le terrain en France, les deux réseaux s'évitent et se toisent. Ainsi, le très giraudiste Mitterrand mène-t-il une guerre d'influence contre son alter ego gaulliste, Michel Caillaud, dit Charette. Neveu du général de Gaulle, à la tête d'un plus modeste réseau de prisonniers, Caillaud méprise ce diable de Morlan et ses casseroles vichistes. Entre les deux hommes naît une profonde inimitié. Chacun se voit comme l'unique représentant des détenus contre l'occupation. Alors les coups bas se multiplient, ayant haut lieu. Ainsi, quand le débarquement en Corse des Alliés est planifié, Giraud ne dit rien de Gaulle. Furibard, l'homme de Colombey prend alors une décision radicale, peser de tout son poids auprès des membres de la France libre pour éjecter son rival de la coprésidence. Le 9 novembre 43, c'est chose faite, Charles de Gaulle est désormais le seul maître à bord. En France, les forces intérieures sont chamboulées. Un peu partout, les messages codés fusent et plusieurs réseaux sont mis au jour par la Gestapo. Parmi eux, on trouve celui de Morlan. Au petit matin du 11 novembre, les gestapistes, qui viennent d'apprendre sa véritable identité, organisent une descente chez lui, rue Nationale, à Vichy. Heureusement, il est sorti. Prévenu par quelques amis, Mitterrand réussit à s'enfuir pour l'Angleterre. Désormais, le voilà clandestin sans filet. Pris entre l'angoisse de la captivité et un sentiment de toute puissance, il se lamente. « Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas fait à son image ?» se demande-t-il dans une lettre. Pendant ce temps à Alger, le grand chef de Gaulle organise une fusion de ses services avec ceux de Giraud. Fin novembre, il convoque un à un les dirigeants affiliés à son ancien rival. Eh bien, le 3 décembre, vient le tour de Morlan. Renommé meunier par les gaullistes, le Charentais en exil à Londres s'inquiète. Si son mouvement de prisonniers fusionne avec celui de Michel Caillaud, alors de Gaulle va forcément vouloir mettre celui-ci à sa tête. Comme nous l'avons évoqué au début de ce récit, au moment où le futur socialiste embarque dans l'avion pour Alger, le 3 décembre 1943, il est pensif. Comment faire pour renverser la tendance? Une fois à Alger, François Mitterrand retrouve une vieille connaissance, Henri Freinet. Escorté par ce dernier, le jeune homme pénètre dans la villa des Glycines. Et là, il aperçoit pour la première fois la célèbre silhouette du général. Vêtu de son uniforme d'officier et de son képi, de Gaulle se lève, puis déploie sa main, sa grande main. Enfin, les deux futurs présidents se rencontrent. Des années plus tard, Mitterrand racontera cet entretien avec une touche de malice dans son livre « Ma part de vérité ».
J'avais parcouru les routes d'Allemagne, de France et d'Angleterre avant de me trouver dans ce bureau de la villa des Glycines, et voilà que, devant moi, était avec sa drôle de tête, petite pour son grand corps, son visage de condottière effroté chez les bons pères, et ses jambes repliées sous la table, celui que j'avais tant imaginé. Je m'encourageais en pensant à Stendhal. Pas de doute, c'était De Gaulle. Pendant qu'il me parlait, sa belle main un peu molle se balançait au rythme de je ne sais quelle berceuse.
Au départ, le général se montre distant, voire méfiant, face à Bonnier. Après tout, comment faire confiance à quelqu'un qui a servi Pétain à un temps ? En réponse, l'ancien étudiant en droit livre une plaidoirie brillante. Oui, il a cru au maréchal, mais comme des millions d'autres. Et puis il s'est trompé. Mais maintenant, il est engagé corps et âme dans le mouvement pour les prisonniers. De Gaulle rebondit à ce propos, dit-il, « J'ai l'intention de mettre Michel Caillou à la tête d'un grand mouvement unifié des prisonniers de guerre. » Aïe. Mais l'implacable Mitterrand oppose alors un argument de poids. Ses effectifs sont beaucoup plus nombreux, et grâce à son passage à Vichy, il connaît bien mieux les enjeux que son rival. Raide comme une lance, De Gaulle hésite. Puis il se tourne vers Henri Freinet. Résistant à la première heure, Freinet a toute sa confiance. Or, celui-ci connaît Monnier depuis qu'il se fait appeler Morland, et il l'apprécie, au point même de s'en porter garant. Après quelques minutes, De Gaulle rend son verdict. Le Rassemblement national des prisonniers de guerre sera dirigé par François Mitterrand, qui vient de réussir là un coup de maître. Avec le parrainage du général De Gaulle et d'Henri Freinet, s'il vous plaît, il a acquis une sorte d'absolution. Désormais, son destin est scellé à celui de la France libre. Trois mois plus tard, dans la nuit du 26 au 27 février 1944, Morland embarque à bord d'une petite vedette dans le port anglais de Dartmouth. Il débarque sur la plage de Beg-en-Frip, commune de Guimaec, dans le Trégor finistérien, au pied des bottes allemandes, par une nuit sans lune, où des gens courageux également l'emmènent jusqu'à la gare de Morlaix, direction Paris. Responsable reconnu, Mitterrand devient l'une des figures de la résistance. Au printemps, la guerre bascule pour de bon. En Europe comme dans le Pacifique, les Alliés font reculer les forces de l'Axe. En juin, après le débarquement en Normandie, les Allemands se replient. Et quand Paris est libéré en août, François Mitterrand fait partie de ceux qui marchent non loin du général.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière.
Ce jour-là, au milieu de la ferveur populaire, Mitterrand rencontre une jeune résistante, Danielle Gouze, qui deviendra première dame en 81. D'ailleurs, immédiatement, il la voit, elle veut l'épouser. Cet homme est un romantique, il aime les femmes, il n'aime rien tant que les séduire. La France, elle, revient de loin. À la fin de la guerre, en 1945, le pays peut s'asseoir à la table des vainqueurs. C'est le coup de génie du général de Gaulle. Chef de l'État à part entière, il fonde le RPF et prend ses distances avec François Mitterrand, qui en 1947 devient ministre, encarté à l'UDSR, un parti de centre-gauche. À l'observer sur les photos, on voit que ces années de guerre l'ont profondément changé. Derrière son visage de marbre, il commence à nourrir des ambitions nationales. Il lui faudra 35 ans et 3 tentatives pour gravir la dernière marche, battue par son vieil ennemi de Gaulle en 65, puis par Giscard en 74. Il devient finalement président en 81. Cultivant toute sa vie le goût du secret, le président Mitterrand, qui n'avait pas son pareil quand il s'exprimait pour convoquer notre réflexion, il fallait lire entre les lignes, passe la majorité de sa magistrature harcelée par un cancer. Et quand il adresse une dernière fois ses vœux aux Français, en décembre 94, peut-être repense-t-il à ce parcours qu'il a amené des geôles allemandes au palais d'Élysée. C'est sa dimension mystique et toujours la force des mots, de la formule.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin. Et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Les forces de l'esprit et celles de l'action aussi. Durant cette si sombre période de l'occupation, François Mitterrand se sera fondu dans ce groupe qu'on appelle les Vichisto-résistants. Ceux qui finissent par faire le bon choix, au bon moment, et pas à la dernière heure, comme d'autres.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Mitterrand, le funambule, notre invité Bénédicte Vergès-Chénion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de l'occupation, autrice de plusieurs livres, même beaucoup de livres sur le sujet, dont « Les Vichisto-résistants » de 1940 à nos jours, livre paru chez Perrin en 2008. Vous avez écrit aussi une biographie de Pétain, bio paru toujours chez Perrin en 2014. Alors, « Les Vichisto-résistants », d'après ce qu'on vient de raconter, manifestement, François Mitterrand coche toutes les cases de ce concept.
Oui, toutes les cases. Ça implique effectivement d'adhérer non seulement à la personne du maréchal Pétain, mais à son programme politique, qu'on définit en général par la Révolution nationale, c'est-à-dire, au fond, un programme conservateur, voire réactionnaire, effectivement, donnant la prime aux Français contre les étrangers, restaurant des valeurs traditionnalistes et en particulier promouvant les régions, l'agriculture, la paysannerie, le monde rural. Donc il y a cet aspect-là.
Est-ce qu'on peut parler de régime autoritaire paternaliste ?
Alors, c'est un régime, oui, très hybride. Mmh. Alors, oui, autoritaire, parce qu'il y a un chef et un chef qui réclame la discipline et l'obéissance. Paternaliste, parce que oui, voilà, le chef va décider pour sa population. Mais c'est aussi un régime qui aspire à une modernité technocratique, qui va mettre en place par endroit des corporatismes. Bref, oui, c'est un régime très composite qui, en plus, va évoluer vers la fin à un régime de violence d'État.
Même au milieu, d'ailleurs.
Oui, oui. Mais en tout cas, à partir de 1943, voilà. Donc, ça, c'est l'aspect vichisto de vichisto-résistant. Et puis, il y a résistant. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui veulent participer d'une manière ou d'une autre à la libération de la France, voire à la revanche contre l'Allemagne, et qui, pour ce faire, ne se contentent pas d'espérer, mais agissent. Agissent, et la particularité, c'est d'avoir pensé, un temps plus ou moins long, que c'est à l'intérieur des organes du gouvernement de Vichy qu'il serait possible de préparer cette libération avec l'approbation tacite ou ouverte du maréchal Pétain et avec les moyens de l'État et de l'administration. Et selon les moments, ce sont des gens qui ont cru ça jusqu'à la fin de l'année 40, jusqu'au milieu de l'année 1942 et le retour de Pierre Laval à la tête du gouvernement dont vous avez parlé, ou plus tard, au moment de l'invasion de la zone libre par la Wehrmacht en novembre 1942, ou encore plus tard, après l'éviction du général Giraud. Voilà, c'est une histoire qui se fait par étapes, je dirais, au gré des inspirations et des expériences des uns et des autres.
Alors, est-ce que ça nous renvoie à l'école des cadres d'Uriage ? Si j'ai bien compris, c'est une école des cadres qui veut mettre en place une sorte d'ENA de Pétain. Hein. Et puis quand ces gens-là s'aperçoivent de la dérive criminelle, antisémite du régime de Pétain, deviennent résistants.
Oui, il y a dès l'origine chez ces gens justement ça, c'est-à-dire saisir l'opportunité de refaire l'État, de changer les choses, d'améliorer la France. Voilà, y compris grâce au programme de Pétain, mais toujours avec cette volonté de libération, de lutte contre l'Allemagne, qui va prendre de plus en plus de place jusqu'au moment où l'école d'Uriage va être fermée par le gouvernement de Vichy et où ses locaux passeront à la milice ensuite.
Alors, est-ce que François Mitterrand est passé par l'école des cadres d'Uriage? Je dois vous avouer que depuis quelques années, j'essaie de savoir et j'ai des réponses qui sont un peu contradictoires. Est-ce qu'on sait?
Alors, d'après les archives de l'école et d'après ce qu'a dit François Mitterrand, je vous dirais plutôt non.
D'accord.
Effectivement. Mmh. Ce qui n'empêche pas qu'il ait côtoyé et des personnes importantes de cette école. Effectivement. Et en tout cas, il partage vraiment un état d'esprit. La particularité de François Mitterrand, c'est que son action, elle est d'emblée orientée vers les prisonniers de guerre.
Oui, c'est vrai. Bien sûr.
Voilà.
Oui, c'est le socle, hein, vraiment.
C'est vraiment le socle. Je dirais son action officielle comme son action clandestine. Mmh. Et je pense que c'est cela, de toute façon, ce tropisme prisonnier de guerre qui l'amène à la résistance. Non seulement François Mitterrand est un évadé d'un camp de prisonniers, mais c'était sa troisième tentative qui a réussi. C'est vous dire qu'il était quand même très, très déterminé.
Comme la présidentielle, trois tentatives.
C'est vrai.
Mais oui.
Et au fond, son premier geste, c'est de faire partager cette possibilité à d'autres prisonniers, voilà, en favorisant des évasions, et d'accueillir ceux qui parviennent à regagner la zone libre. Voilà. Donc, il y a quelque chose, je dirais, d'interne, voilà, dans ce mouvement de résistance, qui va ensuite prendre de l'ampleur et rayonner. C'est-à-dire que François Mitterrand pensera même que le mouvement prisonnier, ça pourrait être un organe de rénovation de la France après la libération.
Un ciment aussi, hein, un vrai ciment.
Oui, oui, absolument. Mmh. Alors ça, c'est un discours de Pétain et de Vichy qu'il a intégré.
Oui, c'est une question, c'est un point d'interrogation.
Oui, oui, mais voilà, que François Mitterrand a intégré. Mmh. Et on voit que vraiment en 44-45, il espère faire du mouvement prisonnier une matrice politique. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il a même été nommé par le général de Gaulle secrétaire provisoire, ministre par intérim, voilà, au moment de la libération de Paris, pour le département des prisonniers de guerre.
France Inter. Affaires sensibles.
Bénédicte Vergès-Chaignon. On découvre que François Mitterrand est un homme fidèle en amitié, ça on le sait, ça fait partie de sa personnalité. Et quel que soit le bord politique de ses proches, bon, pourquoi pas. Mais enfin, de Bousquet à Freinet, vous apprécierez le contraste, il a conservé certains liens pendant des décennies, ce qui lui a été beaucoup reproché d'ailleurs. Enfin, surtout Bousquet, évidemment, Freinet non, mais Bousquet, dont on se demande pourquoi il a gardé des relations avec un tel personnage. Il s'en est expliqué, ça n'a pas convaincu grand monde. Quel est votre regard sur ce point-là?
Oui, c'est vrai que... Et alors, peut-être ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il a même accueilli dans ses cabinets ministériels sous la 4e République, dans les années 1950, certains des proches de Bousquet, comme Jean-Paul Martin. Il y a une amitié qui est faite de renvois d'ascenseur, hein, puisque Bousquet, qui est lié à un journal très puissant, la Dépêche du Midi, va soutenir à chaque fois les candidatures de Mitterrand au présidentiel. Et en fait, il va falloir vraiment la mise en accusation pour crime contre l'humanité de Bousquet en 86 pour que le président de la République arrête de le recevoir ou du moins ne le reçoive plus que extrêmement discrètement. Et il est vrai qu'il aura fait son possible pour retarder la procédure judiciaire à l'encontre de Bousquet.
Alors, il y a des raisons profondes, j'imagine.
Oui, en dehors de l'amitié, il y a ce refus de la part de Mitterrand de dire que c'est la France qui a participé à la mise en œuvre de la solution finale en France.
Ce que Chirac a démenti lors du fameux discours du Vel d'Hiver.
Voilà. du 16 juillet 1995. Or, pour Mitterrand, la responsabilité allemande reste non seulement entière, mais exclusive, effectivement. Et puis, il y a un aspect plus intime qu'on a bien vu, qu'on voit bien dans la grande interview qu'il donne à Jean-Pierre Elkabbach.
Testamentaire, interview testamentaire, quasiment.
Où on voit que François Mitterrand veut bien s'expliquer, mais il ne veut jamais se renier et dire qu'il a eu tort.
Mais, alors, on dit aussi, l'historienne que vous êtes va confirmer ou infirmer, que 100 ans le vent tourné à la fin de la guerre, Bousquet aurait donné un coup de main à quelques réseaux de résistance pour se mettre dans le bon camp au moment où ça commence à chauffer pour lui, et que parmi ces réseaux de résistance aidés, il y aurait celui de Morland, donc Mitterrand. Est-ce vrai ?
Oui, oui, alors... Bousquet, déjà quand il est secrétaire général à la police, donne des coups de main voilà, à des amis, à des relations, y compris des juifs pour les aider, voilà, au coup par coup, je dirais. Et puis, effectivement, n'hésite pas, mais comme d'autres ministres de Vichy, à commencer à prendre le vent de l'autre côté. Bon, Bousquet, il va être arrêté et interné par les Allemands. Il va finir la guerre en Allemagne. Et ça va compter à son retour comme une manière de dédouanement, hein, effectivement. Et vraiment, lorsqu'on lit l'instruction de son procès devant la Haute Cour de justice, on ne peut qu'être impressionné par son habileté incroyable, qui explique pourquoi il s'est sorti très très bien, effectivement, de son procès en 1949, avec une condamnation de principe dont il a été relevé, d'ailleurs, pour avoir aidé des résistants.
Bon, il nous reste 40 secondes, je sais que pour les historiens, la compression du temps, c'est pas très beau, mais enfin, moi j'ai quelque chose qui me chiffonne, pourquoi Mitterrand en veut-il autant à la Troisième République, une république parlementaire, démocratique, qui a fait la séparation des églises et de l'État, enfin, avec Blum aussi au pouvoir, Front Populaire, des choses qui devraient le séduire.
Alors, au moment où il en veut à la Troisième République, à la fin des années 1930, il est un jeune homme de droite.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Ouais, oui. Voire de droite extrême, mais en tout cas de droite. Et de ce point de vue-là, il est très représentatif de son milieu, qui en veut à la République, en particulier à la République parlementaire, ce qui est assez étrange aussi quand on connaît la suite de sa carrière, pour son inefficacité, son instabilité, son impuissance.
Bien, merci infiniment pour tous vos éclairages. Alors, j'ai pas le temps de citer tous vos livres, mais je renvoie les auditeurs sur le site de France Inter, parce que vous avez écrit beaucoup de livres intéressants. Merci infiniment, Bénédicte Vergès-Chaignon. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. François Mitterrand, le funambule, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sophia Lacnib.